Session de philosophie par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, juillet 96, le 1er juillet 96, première conférence.
Puisque hier au soir, je vous l'ai dit à travers le Père Marie-Dominique, on est très heureux de vous recevoir. Je ne parle pas de ceux qui sont ici habituellement, ni de celles qui sont là habituellement, mais de ceux qui viennent pour cette session. Vous comprenez que le sujet qu'on va traiter est un sujet qui est au cœur de toute la philosophie. Si la philosophie est sagesse, elle doit éclairer toute notre vie. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien que la philosophie n'éclaire pas encore toute notre vie. Saint Thomas fait ces petites réflexions qui sont assez belles lorsqu'il s'agit des diverses sciences du Christ. Il montre que ce n'est pas parce qu'il y a une lumière plus forte que les autres lumières à d'autres niveaux doivent disparaître. L'intelligence a ceci de très particulier, c'est qu'elle respecte l'autre. C'est toujours un manque d'intelligence que de ne pas respecter l'autre. Parce que l'amour passionnel désire manger. Vous voyez bien ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc on aime tellement quelqu'un qu'on le mange. Une mère qui dit à son petit « je t'aime, je te mange », ça exprime quelque chose de vrai. Bon, on le respecte pour la mère, pour l'ami, c'est plus gênant. « Je t'aime tellement, je te mange », au fond. Alors on ramène tout à soi, au nom de l'amour. Et celui qui est patient et qui pâtit n'ose rien dire, parce que s'il dit quelque chose, il dit « mais alors tu ne vois pas jusqu'où je t'aime ». Et c'est vrai que, de fait, l'amour, sauf l'amour spirituel, l'amour divin, est infiniment respectueux de l'autre. Mais l'amour passionnel ne l'est pas. Parce qu'on impose à l'autre ce qui nous semble bon. C'est sûr que la philosophie, pour un chrétien, n'est pas la lumière dernière. On aura l'occasion de le voir au terme de la session, pas au début. Au début, on se met dans la philo. Et on sait que la foi ne supprime pas les exigences de la recherche philosophique. C'est tellement vrai que l'Église condamne le fidéisme. Or, le fidéisme, c'est celui qui dit « je sais ça par la foi ». Je n'ai pas besoin de le rechercher par l'intelligence. Ça, ça encourage la paresse. Ce qui fait qu'on a des chrétiens qui sont bêtes. Et c'est pas agréable à Dieu. Aristote dit ça admirablement quand il montre que par la philosophie, on cultive en nous ce qui est de plus précieux. Pour Aristote, c'est vrai, c'est ce qui est de plus précieux. Notre intelligence contemplative. Et donc, par le fait même, Dieu nous aime particulièrement parce qu'on fait de la philosophie. On oublie complètement ça. Dites ça à quelqu'un, me dire, vous êtes fou. Le tout, c'est de lire l'Évangile, c'est la seule chose qui compte. Le tout, c'est d'aimer Dieu et le prochain, c'est la seule chose qui compte. L'intelligence, c'est du luxe. Faire des cours de philosophie aujourd'hui, mais c'est du luxe. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a toujours quelque chose de vrai, c'est sûr. Si quelqu'un qui meurt de faim m'apporte et que moi je continue de faire de la philosophie, c'est comme celui qui continue de faire de la philosophie, il fait à côté de lui un incendie. Il ne fait aucune attention. C'est l'heure où il doit faire de la philosophie. Donc le feu peut brûler, après on verra. Mais il ne restera plus grand-chose. Très facilement, on considère la philosophie comme un luxe. Et donc comme une chose secondaire. Alors que pas du tout. La philosophie est essentielle. réfléchir sur ce qui est central à notre vie humaine. Découvrir ce qu'est la personne humaine, c'est central, c'est capital. Or, pour découvrir ce qu'est la personne humaine, on touche nécessairement le problème de l'âme et du corps. Impossible autrement. Si on veut étudier sérieusement la personne humaine, et en étudiant sérieusement l'âme et le corps, on touche le problème de l'immortalité. Une personne ne peut pas être une personne si elle est corruptible dans son fondement, c'est-à-dire dans son âme. Parce que la personne, c'est la dignité. Et la corruptibilité n'est pas la dignité. La corruptibilité d'une réalité montre sa fragilité, montre comment elle fait partie du cosmos. Notre cosmos n'a pas la dignité de l'esprit. Il a la dignité de la puissance, du poids, de la grandeur, c'est sûr. Foulcan. Et c'est une dignité très particulière, celle-là. C'est pas la vraie dignité. C'est la dignité quantitative. Évidemment, c'est toujours plus imposant quantitativement un énorme gâteau qu'un tout petit gâteau. Alors, il est le roi des gâteaux parce qu'il est énorme. C'est la quantité qui donne le poids. Qui impressionne, c'est colossal. C'est très bien ce que c'est que colossal. C'est la quantité qui vient au secours de la qualité. Ça arrive de temps en temps, surtout dans notre monde. La qualité n'a pas besoin par elle-même du secours de la quantité. Quelquefois, elle en a besoin. Alors, c'est sûr que le problème de la personne est un problème qualitatif, de dignité. Et au cœur de ce problème de la personne, il y a l'âme immortelle. Et c'est ce sujet-là que nous allons essayer de comprendre. Vous comprenez que la mort prend une signification tout autre, mais tout autre. On le verra. S'il y a immortalité ou s'il n'y a pas d'immortalité. S'il y a immortalité, la mort est un passage. C'est un pont. On passe d'une rive à l'autre et une fameuse. Entre les deux, il y a des brigands qui vous enlèvent tout ce que vous êtes quant à votre avoir visible. Comment sommes-nous après ce passage quand notre corps disparaît? Comment se situe notre âme? On peut imaginer, mais on n'a pas d'expérience. Mon réalisme m'empêche de parler de ce passage parce que je ne l'ai pas fait. Et vous non plus. Si vous avez une expérience de la mort, du moins si vous croyez avoir une expérience de la mort, c'est très intéressant. Vous pourrez peut-être faire une petite conférence après pour dire voilà mon témoignage. J'ai l'expérience de la mort. Ce sera peut-être très intéressant. Vous me le direz. Et puis on vous laissera un petit quart d'heure pour votre expérience de la mort. Et on vous critiquera, ne vous inquiétez pas. On va voir un petit peu ce que c'est que cette expérience de la mort. Si mon âme est immortelle, il y a quelque chose qui demeure au-delà de la mort. Puisque la mort, par définition, n'est pas immortelle. Je dis immortelle. Donc celui qui n'est pas mortel, il est immortel. connaît pas ce que c'est de la mort. Si mon âme est immortelle, elle ne connaît pas ce que c'est de la mort. Mais moi, ma personne humaine, si digne qu'elle soit, est mortelle. Comme personne. C'est vrai. Parce que ma personne actuelle et ma personne après la mort, je crois, n'est pas la même. Elle est quand même très différente quant à son expérience intime. Je peux avoir une expérience de mon intimité maintenant. Cette expérience de mon intimité est liée à mon imagination, est liée à ma sensibilité, est liée à ce que je suis concrètement dans mon je suis actuel. Qu'est-ce qu'elle est après? Après ce dépouillement, après cette opération de purification, qu'est-ce qu'elle est après? Je n'en sais rien. J'en ai pas l'expérience. Je peux essayer d'imaginer, je n'ai pas l'expérience. Vous voyez, on touche un problème fondamental pour notre vie humaine. On pourrait dire qu'aujourd'hui, au-delà des tendances religieuses diverses, il y a quelque chose d'absolument fondamental. Ceux qui ont découvert ou qui croient en l'immortalité de l'âme et ceux qui prétendent que c'est l'inverse. On est devant ce très très gros problème, pour ne pas dire le problème radical de toute la philosophie. Oui. Ce n'est pas le point de départ de la philosophie. Il y a la philosophie de l'immortalité, il y a la philosophie de la non-mortalité. Vous pourriez dire ça, parce que c'est si important pour ma vie. Donc il y a deux orientations. Il y a un carrefour. Non. Parce que je n'ai pas l'expérience de l'immortalité. Donc ça ne peut pas être un point de départ. Ça ne peut être qu'une conclusion. Mais la conclusion primordiale de comprendre qu'il y a en moi une personne humaine implique l'immortalité. Je pourrais me poser la question, s'il n'y avait pas l'immortalité, y aurait-il encore une personne? Ça, c'est une question. C'est une question importante. Vous voyez, c'est une question. Ce n'est pas le point de départ. Le point de départ de ma philosophie, si c'est une philosophie réaliste, c'est toujours le jugement d'existence. Nous le verrons. Je suis. Tu existes. Est-ce que mon existence, l'expérience de mon existence, suffit à découvrir que dans cette expérience, il y a l'immortalité? Ce serait une très belle question, ça. Est-ce que vous touchez l'immortalité? Est-ce que vous avez une certaine expérience réaliste de l'immortalité? Vous n'avez pas une expérience globale, immédiate, mais est-ce que dans votre je suis, poussé jusqu'au bout, poussé jusqu'à la personne humaine, autrement dit, tout le cours que nous avons fait l'année dernière sur la personne, pour que l'expérience du « je suis » soit la plus parfaite possible, la plus riche possible. Est-ce que cette expérience qui me saisit profondément implique immédiatement l'immortalité? Vous voyez exactement comment on se pose la question. L'expérience que j'ai du je suis, exige-t-elle de poser un être premier qu'on qu'on appelle Dieu. Est-ce que l'expérience de mon je suis exige-t-elle de poser l'immortalité présente dans mon je suis? Vous voyez, les deux grandes questions au terme de la philosophie, d'une certaine manière. Jusque-là, je ne me suis pas posé le problème de l'immortalité. Oui, d'une certaine manière, on peut dire que je vous la pose en éthique, que je vous la pose en philosophie du vivant. Est-ce que je me pose cette question-là? Je peux dire que d'une certaine manière, en éthique, par le problème de l'amour d'amitié, le problème de l'immortalité se pose. Vis-à-vis de mon ami, est-ce que vis-à-vis de mon ami, je peux dire que cette amitié que nous avons ensemble est immortelle? Parce que nous avons besoin de le dire. Et au point de vue moral, est-ce que j'ai besoin de dire que mon âme humaine va porter jusqu'au bout la responsabilité de ses actes? Un acte bon, c'est un acte héroïque de venir à une session pendant les vacances. Acte héroïque. Alors, est-ce que cet acte héroïque est immortel? Est-ce que éternellement vous aurez la récompense d'avoir fait une session sur l'immortalité? C'est quand même intéressant. Ça donne du poids à cet acte. Ça fait que cet acte prend quand même une importance. Si la responsabilité de cet acte devrait être récompensée parce que cet acte est bon et que cet acte, les conséquences dureront éternellement. Ou est-ce que vous dites non, pas du tout, c'est un acte comme un autre. J'ai choisi ça parce que j'avais le temps. Mais ça doit être intéressant, mais pas du tout éternel. On dit bien, cette session n'est pas du tout éternelle, elle n'est pas du tout immortelle. On mangera pendant cette session, toi, je pense. Et par le fait même, on montre bien qu'il y a une contingence. Je peux tomber malade. Donc il y a une contingence. Cette session est pleine de contingence. Et pour venir jusqu'ici, c'était plein de contingence. Tu aurais pu avoir un accident sur la route. Alors, comment dire qu'une session de philosophie puisse avoir une répercussion éternelle? C'est quand même intéressant de poser la question comme ça. Si vous êtes conscient de vous-même jusqu'au bout, vous devez vous poser la question. Vous voyez qu'il y a une répercussion sur ce problème de l'immortalité, sur toute notre vie, sur toute notre morale, sur tous nos engagements et surtout sur l'amour. J'aime différemment quelqu'un si je sais que mon amour pour cette personne est immortel. Que si l'amour que j'ai pour cette personne est mortel, c'est-à-dire que ça dure un certain temps, comme un bon coup de pied que je donne à quelqu'un, ça dure un certain temps. Il y a la marque. Alors, est-ce que l'amour est comme ça? Il y a la marque. J'aime quelqu'un pour l'éternité ou simplement pour quelques jours. Ma session qui est dans le temps s'achève-t-elle dans l'éternité? A-t-elle une répercussion jusque dans l'éternité? Vous voyez, il y a là quelque chose qui montre l'importance de cette recherche, puisque elle me donne une lucidité beaucoup plus grande sur ma responsabilité, sur mes différents contacts de ma vie, sur mes décisions. Vous voyez, elle dépasse la morale, puisque de fait, situation qui est beaucoup plus profonde qu'une simple contingence. Je touche quelque chose de ma finalité par l'amour. Et ce quelque chose de la finalité par l'amour a une répercussion d'éternité. Oui, on touche donc un des problèmes, peut-être le second problème, dans son importance au plan philosophique. Le premier, c'est Dieu. Le second, c'est l'immortalité. Ou le premier, c'est l'immortalité. Et le second, c'est Dieu. C'est déjà intéressant de voir que ce sont les deux problèmes philosophiques qui ont une répercussion sur toute ma vie. Vous n'avez aucune conclusion de n'importe quelle science, autre que la philosophie. Aucune autre question qui a une répercussion sur toute votre vie. Les mathématiques ont des répercussions quand vous découvrez quelque chose de tout à fait original. Vous allez avoir une situation importante. celles qui rejettent Dieu, celles qui rejettent l'immortalité de l'âme. Et c'est vrai qu'au plan pratique, c'est la division fondamentale. Les Grecs avaient très fort ce sens. Il y a du divin et du corruptible. C'est la grande distinction. Dans notre monde d'aujourd'hui, nous n'avons plus ce même sens. Mais c'est intéressant de voir que notre philosophie européenne a commencé par ça. Il y avait le divin et le corruptible. Il y avait l'incorruptible qui était divin et le corruptible. Le monde de la corruptibilité, le monde de l'incorruptible. C'est une division fondamentale. Cette division demande d'être dépassée par le point de vue métaphysique de l'être. Il y a un être corruptible, il y a un être incorruptible. Et c'est par l'être et seule l'exigence de ce qui est en tant qu'il est que je peux dépasser cette division fondamentale, cette division radicale qui fait que je touche deux extrêmes. Donc, rappelez-vous ça. Et vous-même, notez tout ce qui vous semble être très important à éclairer dans ce problème. Parce que si on n'y touche pas, je vous demanderai de le rappeler. Et j'aimerais beaucoup ça. Que votre première réflexion aujourd'hui, au plan philosophique, ce soit de noter toutes les conséquences de cette question « Mon âme est-elle immortelle ?» et de voir toutes les conséquences de cette question, qu'elle soit résolue affirmativement, qu'elle soit résolue négativement. Vous voyez, ça aide toujours dans la recherche de voir l'importance de la question. Si on ne voit pas l'importance de la question, on n'est pas entièrement engagé dans cette recherche. On ne la recherche pas pleinement et totalement. On dit c'est juste secondaire. Alors on laisse ça quelque chose de secondaire. Tandis que si on voit qu'à la lumière de cette question, il y a énormément de conséquences, on s'y arrête. On s'y... C'est nécessaire de s'y arrêter, parce que c'est capital. Je crois que ça, tous, nous devons le faire au plan humain et au plan chrétien. Au plan chrétien, c'est facile. Nous savons dans la foi chrétienne que notre âme est immortelle, puisque nous sommes appelés à vivre éternellement la vision béatifique. Là, vous voyez, c'est peut-être intéressant de se rappeler ça aussi. Thomas d'Aquin se pose une question à laquelle, je crois, il faut constamment revenir, de la nécessité de la foi chrétienne. Pourquoi adhérer à la foi chrétienne? Pourquoi pas dire tout simplement « Mon intelligence peut découvrir tout ce qui m'est nécessaire pour mener une vie humaine qui soit une vraie vie humaine ». Et Thomas d'Aquin dit « La foi est nécessaire pour savoir que je suis ordonné, essentiellement ordonné, à la vision béatifique, à voir immédiatement ce qu'est Dieu et comprendre Dieu de l'intérieur. Je suis fait pour voir Dieu. Et je sais que Dieu me donne tous les moyens et toutes les grâces pour le voir. La nécessité de la foi, c'est pour savoir. Comme l'intelligence est faite pour voir Dieu. Ça, c'est très important. Vous voyez, Thomas d'Aquin ne dit pas du tout. La foi, c'est pour pouvoir dire que mon intelligence est immortelle. Pour beaucoup de chrétiens, hélas, la foi est nécessaire pour ça. Et ils seraient même tentés de dire, mais c'est la première chose absolument nécessaire à savoir. Eh bien, Thomas d'Aquin ne dit pas ça du tout. Et il a raison. L'immortalité de l'âme pour un chrétien du Moyen Âge, pour un chrétien comme Thomas d'Aquin, l'immortalité de l'âme faisait partie des preambula fidei. Alors, preambula fidei, vous voyez, c'est une expression classique. Si on est un homme cultivé, on doit la connaître. Les preambula fidei, c'est ce que l'intelligence humaine peut, par elle-même, découvrir. Découvrir l'existence de Dieu. Découvrir la création de l'âme. Découvrir que mon âme spirituelle est immortelle. Voilà les preambula fidei. Donc, comme ils sont des preambula fidei, ils sont connus, ils sont atteints, ils sont découverts avant la foi. Ils sont découverts par la seule puissance de mon intelligence. Et ça, c'est intéressant de savoir ça. Je peux découvrir ça avant d'avoir la foi. Et même pour avoir la foi d'une manière tout à fait consciente, il est nécessaire de voir tout ce que l'intelligence humaine peut par elle-même découvrir et ce que l'intelligence humaine ne peut pas découvrir par elle-même. Ce que l'intelligence humaine ne peut pas découvrir par elle-même, c'est que je suis ordonné par la grâce, par l'amour du Christ, à la vision béatifique. Ce n'est pas un préambula fidei. Mon intelligence humaine ne pourra jamais par elle-même découvrir ça. Mais l'intelligence humaine peut par elle-même, par un effort de recherche de vérité, découvrir l'existence de Dieu. Découvrir l'existence d'une âme spirituelle. Donc, la découverte de l'âme, substance immortelle, immatérielle, fait partie de la recherche philosophique et ne fait pas partie du domaine propre de la foi. Mais nous avons beaucoup de peine à comprendre ça. Parmi vous, il y en a qui ne comprennent pas. Notez-le. Je ne comprends pas ça. Voilà les arguments. Il faut purifier. Quand vous dites que la foi fait ça et que l'intelligence ne peut pas le faire, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et vous restez devant un mur. Alors que l'immortalité de l'âme fait partie d'une recherche philosophique. Pas commode du tout. Et c'est pas parce qu'elle n'est pas commode du tout qu'elle n'existe pas. Ceux qui aiment la recherche de la vérité aiment les chemins difficiles, ardus, parce que ça éveille leur intelligence. Ça éveille leur irascible. Vérité difficile. Donc, on y va. Bien, je vous avertis que c'est une vérité difficile. Donc on y va. Alors s'il y en a qui restent dans la queue, mais tant pis. Ils auront au moins compris que c'est difficile. c'est déjà quelque chose. Ils auront au moins compris que ça ne fait pas partie de la foi. Ils ne diront jamais à quelqu'un, oh, vous n'avez pas la foi, c'est pas étonnant pour vous. Pas du tout. C'est parce que vous n'êtes pas assez intelligent. C'est tout simplement. On ne vous a jamais indiqué la route. On ne vous a jamais indiqué ce chemin-là. Parce que je crois que tous ceux qui refusent l'existence de Dieu, au point de vue de la recherche intellectuelle, il y a un a priori affectif très, très, très caché. C'est Rostand qui disait ça à la fin de sa vie. Je ne l'ai pas connu, mais j'ai connu un de ses amis qui était le parrain d'un de ses fils et qu'il voyait régulièrement et qui me disait qu'à la fin de sa vie, il disait, si j'ai tant de peine d'accepter l'existence de Dieu, c'est parce que sans doute, dans ma jeunesse, j'ai été baigné dans un climat scientiste dans lequel il n'existait comme vérité que ce que la science pouvait nous dire. Et à la fin de sa vie, il mettait ça en doute, vous voyez, disant, il y a quelque chose que j'ai sans doute pas vu. Et il faudrait m'aider à le voir. Il n'y a pas que lui qui me dit ça. Mais c'est très intéressant de voir que, à la fin de la vie, certains positivistes qui refusaient l'existence de Dieu sont obligés de la mettre en doute. Et il y avait l'existence de l'âme. Alors, comme c'est un problème très difficile, il faudrait voir, et ça ce serait très intéressant, il faudrait voir comment les traditions religieuses, qui sont plus anciennes que la philosophie, parlent de la création, parlent de l'existence d'un être premier, parlent de l'âme. Le mot âme, le mot Dieu, le mot éternité, sont des mots qui sont nés dans un climat de tradition religieuse. Il ne faut jamais l'oublier, surtout aujourd'hui, où si facilement on confond l'aspect source historique de certains mots et ce que représente la connaissance de la signification de ces mots. Et l'âme, pour cela, est pour nous un objet tout à fait particulier. Pour la plupart des philosophes, aujourd'hui, l'âme a une saveur religieuse, comme la découverte de Dieu. Dieu, ça se comprend. Et l'âme est liée à l'aspect religieux. Parce que dans les traditions religieuses, tout de suite, on parle de l'âme. Très vite, on parle de l'âme. Et on parle de Dieu. Et ces mots Dieu et ces mots âme ne sont pas des mots qui sont nés dans un climat philosophique. Mais le philosophe, on aura l'occasion de le voir, le philosophe se posera la question, est-ce que le mot Dieu, tel que les traditions religieuses en parlent, le mot Théos, est-ce que, de fait, ce mot a une signification philosophique? Ou au contraire, est-ce que ce mot a une signification mythique, symbolique, mais pas vraiment philosophique? Les traditions religieuses se transmettent toujours par des symboles, par des mythes. Donc, il faut comprendre ce langage mythique, ce langage symbolique, qui n'est pas précisément un langage philosophique et scientifique. Il faut donc bien comprendre que certains mots, âme, spirituel, donc immortalité de l'âme, Dieu, sont des mots qui ont été inventés, découverts, et on peut dire inventés, dans une attitude religieuse. Et ensuite, sont passés dans le langage philosophique. Vous voyez, on le verra tout à l'heure, Platon veut montrer que ce langage de l'âme humaine est d'abord et en premier lieu un langage mythique, un langage symbolique religieux, mais que par ces symboles religieux et par ces mythes, on atteint une réalité que le philosophe peut par lui-même atteindre. Et ça, c'est le concours pour nous de la philosophie et de la poésie, de la philosophie et du symbole. La connaissance symbolique est première, elle est radicale. Les traditions religieuses sont premières et sont radicales. Et de ces traditions religieuses, et à travers ces mots symboliques, l'intelligence humaine charrie des réalités profondes qui ne sont pas seulement touchées par les traditions religieuses, mais qui peuvent être touchées par une intelligence philosophique qui cherche. Ici, par l'analyse philosophique, j'arrive à découvrir que ces mots âme, immortalité, exprime quelque chose de réel, quelque chose de profond. C'est très intéressant de voir le passage de certaines expressions, de certains mots qui sont nés dans un climat de tradition religieuse, dans un climat poétique. Et comment ces mots qui sont nés dans un climat poétique peuvent devenir des mots propres à la philosophie? Et pour moi, c'est tout l'intérêt de Platon. La philosophie de Platon, c'est une philosophie de l'âme et de l'âme immortelle. Premier philosophe, on pourrait dire, qui vraiment s'est attelé à ce problème de l'âme immortelle, qui l'a reçu des traditions et qui a voulu que ce soit au cœur de sa philosophie. Et donc, on voit chez Platon ce passage du mythe au logos. Ce que dit Heidegger, et ça c'est très juste, on voit le passage du mythe, du mythos, ça fait mieux de dire comme ça avec Heidegger, parce que ça a un poids, le mythos, ou logos. Et Platon, c'est celui qui constamment passe du mythos au logos, du logos au mythos, puisqu'il invente lui-même des mythes. Et ces mythes inventés veulent exprimer son logos. Alors il y a comme une espèce de symbiose chez lui entre les deux. Et ça, c'est quand même très intéressant au point de vue philosophique. C'est même capital d'en venir toujours à la source. Parce que le mythos a l'avantage d'être un mythos, un mythe. C'est charmant, un mythe. C'est charmant. Quel est le premier mythe des traditions religieuses, le premier mythe des traditions religieuses, il parle de l'âme spirituelle, de l'âme immortelle. Posez-vous la question. C'est pas capital pour comprendre ce que c'est que l'âme immortelle, mais c'est très intéressant de voir comment on a habillé ce logos de l'âme, ce logos de l'immortalité, d'un habit poétique, d'un habit mythique, pour qu'il soit plus proche de nous. Ça, c'est très intéressant de voir ça. C'est, encore une fois, c'est pas capital pour la philosophie, mais pour la communication. Le mythe, le symbole est très important. Parce que vous communiquez quelque chose qui est plus facile à saisir et qui marque davantage. Alors, il y a une question là, vous voyez, je la laisse. Ce n'est pas directement notre propos, mais c'est impliqué dans notre propos. Si j'en étais sûr, je vous le dirais. Je vous dis chercher. Parce que ça varie. Dans les découvertes historiques, des choses qu'on n'avait pas découvertes il y a 20 ans ou 30 ans, on les découvre maintenant. Ça fait partie d'un patrimoine. Vous voyez, j'avais un ami qui était très fort dans la philosophie de l'Inde.